Mesdames, messieurs, mes chers amis, le pasteur apparaît tard dans le roman. Ceux qui veulent une conférence structurée, c'est la première partie. Le pasteur apparaît tard et le personnage du pasteur n'apparaît dans la littérature française qu'à une époque relativement tardive. Cela ne devrait pas nous étonner. Au XVIIIe siècle, alors que naissent les sources d'où descend le roman moderne, il n'y a, depuis cette date funeste de 1685, qui est évidemment la révocation de l'édit de Nantes, il n'y a plus de pasteurs. Les temples sont démolis, les pasteurs doivent partir du fait de la révocation de l'édit de Nantes en exil, et donc c'est normal, puisqu'il n'y a pas de pasteurs, qu'on ne fasse pas des romans où le pasteur apparaît. Au XIXe siècle, donc nous faisons de l'histoire, mine de tout, mine de rien, au XIXe siècle, c'est la période de réorganisation dans le cadre de la loi de Germinal en 10. Si vous voulez, c'est le concordat de Napoléon avec les articles organiques qui régissent les protestants, et puis alors il y a au début du XIXe siècle le réveil. Et quand on dit le réveil, il faut parler des réveils, parce qu'il y a plusieurs sortes de réveils. On peut mesurer à quel point tous ces événements, pourtant si importants de l'histoire protestante, restèrent étrangers au public français, rien qu'au silence des romanciers qui en furent pourtant les contemporains. Ils ne disent rien des protestants du début du XIXe siècle, et ni même au moment du réveil. Remarquez d'ailleurs que dans cette période qui va de la Restauration au Second Empire, les romanciers parlent assez peu du prêtre, soit qu'ils respectent tout à fait son caractère sacré, le mettant à part, soit que d'autres sujets, décidément, les préoccupent. Balzac, seul, lui consacre quelques titres, je veux dire consacre aux prêtres catholiques romains quelques titres, évidemment, le curé de Tours, le curé de campagne, le vicaire des Ardennes. Pour les autres auteurs, le prêtre catholique romain n'est guère qu'un personnage épisodique. En vertu de quoi, dans ces conditions, eussent-ils parlé des pasteurs? L'idée que le public se fait de lui à cette époque vient uniquement du dehors. Des romans anglais en particulier. Par exemple, le vicaire de Wakefield d'Olivier Goldsmith, qui connaît plusieurs éditions, et des romans écrits en Suisse, comme évidemment le presbytère de Topfer. Ce qu'il convient de souligner, c'est la brusque disparition au moment
de la séparation des églises et de l'État, donc nous avançons dans l'histoire, nous sommes là en 1905, donc la séparation des églises et de l'État, c'est la brusque disparition au moment de la séparation des églises et de l'État du roman anticlérical. Par quoi nous entendons ? Du roman où des prêtres catholiques romains sont mis assez laidement en scène. Le prêtre est devenu, tout à coup, et c'est bien pour lui, le prêtre est devenu tout à coup dans le roman français un personnage sympathique, avec mon curé chez les riches, on est loin de l'abbé Jules de Mirbeau, on est loin aussi de l'abbé Tigrane de Ferdinand Fabre. Évidemment, chaque fois, ce sont des noms de titres de romans. Mon curé chez les riches a beau nous paraître un brin vulgaire, cet ancien aumônier de retour du front avec son langage savoureux et dru, l'abbé a tout de même le brôle. Le renversement si curieux du point de vue littéraire qui s'est produit en France au début du XXe siècle, relativement aux prêtres, n'a pas bénéficié aux pasteurs. Au contraire, tout se passe comme si le pasteur avait recueilli la fort pénible succession laissée vacante par le prêtre dans le roman. Dans bien des romans, où le pasteur est mis en parallèle avec le prêtre, il y a les deux, ce n'a jamais été au détriment de ce dernier, et le pasteur, dans la littérature française, est alors un assez vilain sire. Roger Martin Dugard, auprès du lit de la maladie de la petite fille de Madame de Fontanin, le cahier gris, fait apparaître la silhouette moqueusement dessinée du pasteur Grégory, un prédicateur scientiste, alors que, en 1924 étant la date de parution de l'ouvrage, on aurait eu du mal à réunir, et c'est déjà beaucoup trop, 4 ou 5 apôtres de la Christian Science contre 1 millier de pasteurs qui sont tout simplement protestants. C'est assez dire déjà le parti pris de dénigrement qui anime l'auteur. On nous pardonnera de nous en être émus. Notre propos sera donc ce soir de rechercher à travers les œuvres de quelques auteurs réputés les éléments disgracieux qui constituent le type littéraire du pasteur. On nous pardonnera aussi de ne point nous en accommoder et de rectifier ça et là, quand nous le jugerons par trop nécessaire, c'est très infamant que notre expérience nous montre fort éloignée de la réalité. Quels sont donc ces tares dont le pasteur de roman se voit flétri? C'est autour de cette question que nous avons décidé d'organiser notre développement. Tout d'abord, c'est que, entre sa nature d'homme et sa vocation, la situation du pasteur est difficile à assumer. C'est en second lieu, vous voyez, en même temps, c'est difficile pour moi parce que je vous annonce déjà tout, alors, vous voyez, c'est un peu, je suis un peu embêté de tout vous annoncer, mais quand même, il faut que vous, quand même, vous sachiez où vous alliez. C'est en second lieu que le pasteur apparaît, nous n'inventons rien, hein, nous vous rapportons ce que nous avons trouvé. Le pasteur apparaît frappé d'inintelligence. Et vous n'allez pas en revenir, ça va vous estomaquer. Le pasteur est frappé de laideur. C'est ensuite que, dans la confrontation entre le pasteur et le prêtre, celui-ci domine infailliblement celui-là par sa culture autant que par sa psychologie. Quoi de plus normal, me direz-vous, puisque le pasteur est bête. Nous nous attacherons enfin à cet aspect du pasteur qui, s'il était vrai, ne serait pas le moins blâmable, sa relation trouble à l'argent. Revenons-en donc, au premier des quatre points, la situation proprement intenable du pasteur. Il prétend être un homme de Dieu et en même temps, par le simple fait de son mariage, de sa famille, il prétend appartenir au monde. Le prêtre, il est libre comme l'air. Du côté religieux, il perd le bénéfice de la belle indépendance du prêtre. Et il ne gagne rien du côté de la vie terrestre, car c'est l'émotion, bien sûr, car jamais, quoi que le pasteur fasse de sa vie, quoi qu'il tente, il n'arrive à la vivre en homme. Pourquoi ? Parce que son caractère particulier le met à part. La mesquinerie de son choix, attention, Maupassant parlera plus loin de religion bâtarde, la mesquinerie de son choix prive le pasteur, en même temps, des avantages attachés aux deux situations. Dans les affaires de Dieu, le pasteur mêle beaucoup trop de ce qui demeure en lui de l'homme. Et dans les affaires humaines, il n'est pas assez homme à cause précisément de Dieu. Voilà la thèse. Elle affleure en bien des écrits. Elle s'exprime chez Édouard Rode et avec une netteté qui ne laisse rien à désirer chez Gabriel Marcel. Dans le ménage du pasteur Naudier d'Édouard Rode, qui est un écrivain suisse né à Nyon, et il va évoluer dans l'observation naturaliste, et il va finalement finir par, comme tout le monde, par l'analyse psychothéologique, etc. Bon, dans le ménage du pasteur Naudier, d'Edouard Rode, Hérodé, Jeanne, J-A-N-E, Jeanne, vient d'avouer au pasteur Naudier, qui est veuf et qui a 4 enfants, qu'elle l'aime. Amour partagé, mais auquel le pastorat, dans la quotidienneté, va fatalement faire obstacle. Je cite, elle se leva et s'approcha de lui, les mains tendues, attendant un cri d'amour, un baiser. Mais, bien qu'en cet instant, tout ce qu'il y avait d'homme en monsieur Naudier fut remué et frémi, l'habitude professionnelle fut la plus forte. À peine osa-t-il presser contre ses lèvres les fines mains pleines de caresses qui s'offraient, et il balbutia, prêchant à demi, « Merci, oh merci de me parler ainsi. Oui, vous avez raison, le bonheur vient de Dieu, il faut l'accepter. » L'accepter comme il nous l'envoie, j'accepte le mien en vous bénissant, qu'il soit aussi le bonheur de ceux que j'aime, de ceux que vous aimez déjà. Mais, c'est la fondue, vous voyez la fondue ça donne soif, mais le narrateur reprend. Là non plus, la parole ne moulait pas exactement la pensée. S'il avait parlé selon son cœur, M. Naudier aurait dit sa tendresse déjà trop grande et sa soif de bonheur trop avide. Et comme il lâchait les mains de Jeanne et continuait à balbutier des phrases où Dieu intervenait, la jeune fille, sans le savoir encore, commença à le mépriser de s'oublier si peu. Un an après, je vous le dis carrément, le ménage du pasteur Naudier va aussi mal qu'il est possible. Et parmi beaucoup d'autres, la scène suivante se déroule. Alors là, je vais jouer les personnages et tout. Alors, Jeanne s'appuya de la main gauche à la cheminée et dit doucement, comme il s'agissait d'un fait établi dès longtemps, « Vous avez trop bien compris, mon ami, tout ce qui nous sépare. » Il l'interrompit. « Ah, prenez garde. » Avec tout son calme, elle lui demanda « À quoi ?» Voyant qu'à cette simple question, la colère de son mari vacillait comme une flamme que l'eau frappe, elle reprit aussitôt l'offensive. « Oui, à quoi » répéta-t-elle d'un ton presque narquois. « Avez-vous donc, à votre tour, oublié qui vous êtes ?»« Oh, mon ami, vous êtes un pasteur. » Est-ce que ces transports vous conviennent? Où peuvent-ils vous conduire, dites-moi? Vous savez bien qu'entre nous, aucun drame n'est possible. Oh, les faits divers, mon ami, ils ne sont pas pour les hommes de votre état. Il me semble que je lis dans les journaux un drame affreux vient de se passer à La Rochelle, monsieur le pasteur Naudier, etc. Regardez-vous dans la glace, mon ami. Comment voulez-vous que cela nous arrive? Alors, que vous reste-t-il? Et d'un ton d'ami sérieux qui donne un bon conseil, il vous reste à demeurer fidèle à vous-même, à votre état, à votre caractère, voilà. Sur ce mot, elle sortit sortit sans hâte en passant devant lui. Ce que Jeanne dit en des termes si nets au pasteur Naudier, le tonton, l'oncle de Jeanne, va le lui redire, et avec quelle rigueur. Ah, ça c'est le tonton qui parle. Un simple homme à votre place n'aurait rien à se reprocher, c'est vrai, mais vous, monsieur le pasteur, ne vous êtes-vous pas trompé dans votre choix, et cette erreur à laquelle je confesse humblement que j'ai participé, cette erreur, n'est-ce pas, de votre part, une faute? Regardez au fond de vous-même et répondez-moi. Votre vie n'est pas à vous. Elle appartient au troupeau dont vous êtes le berger. Il a le droit de vous en demander compte, car vous lui devez l'exemple de vos actions comme celui de vos paroles. Et vous pouvez être sûr qu'il sera plus exigeant pour vous que pour un autre. Vous vous mêlez à la vie commune, vous êtes époux, vous êtes père. Vous n'en restez pas moins un ministre de Dieu. Comment voulez-vous donc vous servir des lois comme le reste des hommes? Rappelez-vous, vous ne vouliez pas recourir à la justice pour recouvrer vos loyers. Comment voulez-vous lui demander de vous ramener votre femme, de protéger le foyer que vous n'avez pas su défendre, d'intervenir avec son appareil d'huissier, d'avocat, de gendarme, là où seule la force morale qui vous manque devrait vous servir, pourrait vous sauver? Direz-vous, après cela, que vous n'avez rien à vous reprocher? Autre échec dans cette aspiration des ministres de Dieu à vivre leur vie tout simplement d'homme. L'exemple que Gabriel Marcel évoque précisément dans Un homme de Dieu. Il s'agit cette fois d'une pièce de théâtre. En effet, l'exiguïté du champ d'investigation nous a réduits, avouons-le sans en rougir le moins du monde, à quelques rapines dans l'art dramatique. Écoutez donc le dialogue entre Claude Lemoine, qui est pasteur. Claude Lemoine, c'est le mec, hein, faut bien suivre, hein, sinon vous êtes lâché, hein. Claude Lemoine, c'est le pasteur, et sa femme, qui s'appelle Edmé. Vous voyez, il n'y a pas un catalogue, si, hein, Edmé de Roubaix, vous connaissez ça, le catalogue de la femme forte, etc. Edmé de Roubaix, donc c'est pour que vous voyez. Donc, Claude, c'est le pasteur, Edmé, c'est sa femme. Vous êtes là, saint de corps et d'esprit. Alors, Claude, ce qui nous arrive là est voulu. Cela ne peut pas être un accident, Edmé, cette épreuve. Alors, Edmé va répondre, hein. Elle est là. Toujours cet horrible mot. Claude, nous devons la vivre en chrétien. Edmé, tu n'as pas de quoi la vivre en homme. C'est terrible ça, hein? Tu n'as pas de quoi la vivre en homme. Edmé, 20 ans plus tôt, a commis une faute. La plus lourde des fautes aux yeux d'un mari. Le sien lui a pardonné. Et ils ont vécu côte à côte, sans que jamais aucune allusion ne soit faite au passé. Mais un accident une épreuve, a fait surgir devant eux ce qu'ils croyaient mort depuis longtemps. Toutes les rancœurs inconscientes d'Edmé le moine, qu'elle avait refoulée grâce à une fidélité scrupuleuse à sa tâche de femme de pasteur, remonte d'un seul coup à ses lèvres. Elles valent à Claude, c'est le mec, le pasteur, hein, des répliques comme celle-ci. Edmé, ton pardon, une occasion aussi merveilleuse de déployer tes dons évangéliques. Ou encore, tu sais, quand la bonté n'est qu'une vertu professionnelle. Et cette conversation que nous surprenons, Claude a Edmé. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Edmé, tu ne m'as rien fait. Tu étais toi, j'étais moi. Nous nous sommes épousés, ça suffit. Et quant à ce que tu appelles ma méchanceté, tu sais, 20 ans de souffrance. Claude, de la souffrance? Edmé, je ne savais plus moi-même comme je souffrais. Je l'avais oublié. Je ne l'ai su que dans les tout premiers temps, bien avant d'avoir rencontré Michel. Alors, c'est moi qui entre dans le texte pour vous, là, cadeau, hein. Michel, qui fut son amant, voilà, hein. Alors, je ne l'ai su que dans les tout premiers temps, bien avant d'avoir rencontré Michel, quand j'ai compris qu'au fond, pour toi, l'amour, Claude, je t'ai aimé même de cette façon-là. Edmé, non. Il y avait en toi une force intacte. Tu l'as dépensée avec moi comme avec une fille, mais ce n'était pas de l'amour, tu le sais bien. Et le reste, ton amour pour mon âme. La femme en moi, tu ne l'as pas satisfaite, tu ne l'as même pas soupçonnée. Claude, la femme en toi. Edmé, oui, tu ne peux pas comprendre. Oh, ce n'est probablement pas ta faute. Tout ça, c'est la rançon de tes vertus. Résumons pour voir le verdict. Déformation professionnelle entraînant une incapacité à vivre humainement la vie de tout le monde. Du moins, s'il n'est pas un homme tout court dans ce drame qui vient de ruiner son foyer, le pasteur le moine sera-t-il, pensez-vous, un homme de Dieu? Non pas. Cette même Edmé qui lui disait tout à l'heure, Claude, tu es mon mari, tu n'es pas un prêtre, lui jette à la figure quand il fait montre de découragement. Tu n'as pas le droit de douter de toi. Tu es là pour nous donner de la force. C'est ton métier, après tout. Le personnage d'Edmé, à l'instar d'ailleurs des fidèles réels, voudrait avoir à sa disposition un personnage bivalent, une fois homme, une fois ministre, comme une monnaie dont on peut à loisir considérer l'avers ou le revers. C'est là le drame du pasteur, incapable de se soumettre à cette alternance et qui ne peut qu'être en permanence, et homme, et serviteur de Dieu. De par la nature même de son apostolat, il est en quelque sorte condamné à décevoir l'attente de ses semblables. cela a fini par tout tourner au cliché littéraire, au portrait conventionnel obligé, mais ne présente plus guère de rapport avec la réalité du corps pastoral. C'est ainsi, ce n'est pas autrement, que se créent les types littéraires par dépôt successifs, pourrait-on presque dire. C'est ainsi que, depuis l'essor donné par Balzac ou Stendhal à la littérature d'imagination, se sont créés les types de l'homme d'affaires, du parvenu, du débauché, de l'écrivain, du professeur, du soldat, du prêtre et du pasteur. Car s'il appartient au roman de créer, à l'usage du grand public, des types littéraires, il faut également se dire que les romanciers sont à l'ordinaire gens trop bien avisés pour ne pas servir au public les types que le public leur demande. Peut-être est-ce là justement ce qui explique la lenteur avec laquelle se modifient les moules où sont couler leurs personnages. On aboutit à ce paradoxe qu'en littérature, le conventionnel finit par sembler plus vivant que la vie. Étant donné que le pasteur est ce qu'il est dans le roman contemporain, je me demande si un écrivain de chez nous pourrait encore s'offrir le luxe de peindre aux yeux de ses lecteurs tel pasteur qu'il a rencontré dans la vie bien réelle. À supposer qu'il fût assez indépendant pour le faire, vous pouvez être sûr que le public rectifierait de lui-même, mais non, ce n'est pas ça, un pasteur. Ou bien, celui-là est très probablement une exception. Car, pour créer un personnage de roman, le pasteur digne de ce nom n'est pas intéressant. Pas plus qu'on ne le sont le bon prêtre, le financier honnête, l'épouse fidèle et, généralement, tous les braves gens. Par définition, le héros de roman ne peut pas être un saint. S'il l'était, les lecteurs jugeraient le roman ennuyeux. C'est ce qui faisait dire en substance à Gide qu'on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Autre exemple de cette incapacité à assumer simultanément le rôle d'homme et le rôle de ministre de Dieu, celui du narrateur de la symphonie pastorale d'André Gide, précisément. S'étant chargé de l'éducation d'une jeune aveugle, il tombe amoureux de son élève et, où la réalité aurait vu un pasteur doué d'assez de force morale pour sortir victorieux de cette épreuve, la fiction crée un être dont la faiblesse et la jalousie feront, plus que l'amour lui-même,
le malheur. Au départ, le pasteur est mandé auprès du corps d'une vieille femme pauvre. Il y découvre ce qu'il appelle lui-même un être incertain, une fille aveugle, repoussante, couverte de vermine. Contrairement à Arnaud d'Andy, dont Madame de Sévigné disait qu'il avait plus envie de sauver une âme qui était dans un beau corps qu'une autre. Le pasteur de la Brévine se sent le devoir de sauver cette âme-là. La voisine déclare, et là nous entrons dans le texte, il faudra la mettre à l'hospice, sinon je ne sais pas ce qu'elle pourra devenir. Je m'offusquais d'entendre ainsi décider de son sort devant elle, soucieux du chagrin que ses brutales paroles pourraient lui causer. « Ne la réveille pas, » dis-je doucement, pour inviter la voisine, tout au moins, à baisser la voix. Oh, je ne pense pas qu'elle dorme, mais c'est une idiote. Elle ne parle pas, elle ne comprend rien à ce qu'on dit. Depuis ce matin que je suis dans la pièce, elle n'a pour ainsi dire pas bougé. J'ai d'abord cru qu'elle était sourde. La servante prétend que non, mais que simplement la vieille, sourde elle-même, ne lui adressait jamais la parole, non plus qu'à quiconque, n'ouvrant plus la bouche depuis longtemps que pour boire ou manger. Quel âge a-t-elle? Une quinzaine d'années, je suppose. Au reste, je n'en sais pas plus loin que vous. Il ne me vint pas aussitôt à l'esprit de prendre soin moi-même de cette pauvre abandonnée. Mais après que j'eus prié, ou plus exactement, pendant la prière que je fis entre la voisine et la petite servante, tous deux agenouillés au chevet du lit, agenouillés moi-même, il m'apparut soudain que Dieu plaçait sur ma route une sorte d'obligation et que je ne pouvais pas sans quelque lâcheté m'y soustraire. Quand je me relevai, ma décision était prise d'amener l'enfant le même soir, encore que je ne me fusse pas nettement demandé ce que je ferais d'elle par la suite, ni à qui je la confierais. Il nous semble juste d'attirer votre attention sur le sens du devoir et la vertu de charité du pasteur de la Brévine. Nous n'avons pas eu si souvent l'occasion dans notre recherche de trouver un ministre de la religion réformée paré de ces qualités qui, dans la réalité pourtant, ne peuvent qu'être intrinsèques à sa vocation et aller de pair avec son ministère. Quelques faux pas que l'homme commette par la suite, ses vertus n'en auront pas moins été au commencement de tout. Vous me pardonnerez d'insister quelque peu sur cette œuvre, mais outre qu'elle est l'une des plus célèbres d'un de nos écrivains majeurs, elle est aussi, par le thème qu'elle traite, au cœur même de notre sujet. Pour cette jeune fille, donc, le pasteur se fait pédagogue. Du pédagogue, combien d'entre vous le savent ? Patience et persévérance sont les qualités que j'appellerai de base. mais vous savez aussi d'expérience de quelle joie la moindre réussite pédagogique vous illumine le cœur, et c'est une joie de cette nature que la jeune aveugle, appelée Gertrude, cause pour la première fois au pasteur. Je cite « Les premiers sourires de Gertrude me consolaient de tout et payaient mes soins au centuple. » Car cette brebis, si le pasteur la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont jamais égarés. Oui, je le dis en vérité, jamais sourire d'aucun de mes enfants ne m'a inondé le cœur d'une aussi séraphique joie que fit celui que je vis poindre sur ce visage de statue certains matins où, brusquement, elle sembla commencer à comprendre et à s'intéresser à ce que je m'efforçais de lui enseigner depuis tant de jours. Mais au progrès intellectuel de la jeune fille s'ajoute son passage de l'état d'enfant à celui de femme. Et cet attachement naturel du pédagogue pour l'élève, rendu sans danger par la dissémination sur de nombreuses têtes, se voit ici concentré sur une seule. Comment ne pas comprendre quelque force d'âme dont il soit pourvu que le pasteur de la Brévine, à travers de son œuvre de serviteur de Dieu, ne laisse point paraître à la fin quelque signe de l'homme qu'il est dans toute la faiblesse de sa nature. Pour l'entraîner dans cette pente, l'amour qu'il éprouve pour Gertrude est un amour partagé. Confusément, dans la pureté de ce cœur ignorant, longtemps nous continuâmes de marcher très vite en silence. Tout ce que j'aurais pu lui dire se heurtait d'avance à ce que je sentais qu'elle pensait. Je redoutais de provoquer quelques phrases dont notre sort à tous les deux dépendait, et songeant à ce que m'avait dit Martin, que peut-être on pourrait lui rendre la vue. Martin, c'est le docteur. Une grande angoisse étreignait mon cœur. « Je voulais vous demander, reprit-elle enfin, mais je ne sais comment le dire. » Certainement, elle faisait appel à tout son courage, comme je faisais appel au mien pour l'écouter. Mais comment eussé-je pu prévoir la question qui l'a tourmentée ? Est-ce que les enfants d'une aveugle naissent aveugles nécessairement ? Je ne sais qui de nous deux cette conversation oppressait davantage, mais à présent il nous fallait continuer. « Non, Gertrude, lui dis-je, à moins de cas très spéciaux, il n'y a même aucune raison pour qu'il le soit. » Elle eût paru extrêmement rassurée. J'aurais voulu lui demander à mon tour pourquoi elle eût demandé cela. Je n'en eus pas le courage et continuai maladroitement. « Mais Gertrude, pour avoir des enfants, il faut être marié. » « Ne me dites pas cela, pasteur. Je sais que ce n'est pas vrai. » « Je t'ai dit ce qu'il était décent de te dire, protestai-je. Mais en effet, les lois de la nature permettent ce qu'interdisent les lois des hommes et de Dieu. » Vous m'avez dit souvent que les lois de Dieu étaient celles mêmes de l'amour. L'amour qui parle ici n'est plus celui qu'on appelle aussi charité. Est-ce par charité que vous m'aimez ? Tu sais bien que non, ma Gertrude. Mais alors vous reconnaissez que notre amour échappe aux lois de Dieu. Que veux-tu dire? Oh, vous le savez bien, et ce ne devrait pas être à moi d'en parler. En vain je cherchais à biaiser, mon cœur battait la retraite de mes arguments en déroute, éperdument je m'écriais, « Gertrude, tu penses que ton amour est coupable ?» Elle rectifia, « Que notre amour, je ne dis que ce que je devais penser. » Et alors, je surpris comme une supplication dans ma voix, tandis que, sans reprendre haleine, elle achevait, mais que je ne peux pas cesser de vous aimer. Tout cela se passait hier, j'hésitais d'abord à l'écrire, je ne sais plus comment s'acheva la promenade. Nous marchions à pas précipités comme pour fuir, et je tenais son bras étroitement serré contre moi. Mon âme avait à ce point quitté mon corps, il me semblait que le moindre caillou sur la route nous eût fait tous deux rouler à terre. Et cette image des deux roulant à terre nous apparaît comme un symbole de la chute redoutée. Cette chute survient la nuit suivante, nuit du 19 mai. J'ai revu Gertrude et je ne lui ai point parlé. À la grange ce soir, comme personne n'était dans le salon, je suis monté jusqu'à sa chambre. Nous étions seuls. Je l'ai tenue longuement pressée contre moi. Elle ne faisait pas un mouvement pour se défendre, et comme elle levait le front vers moi, nos lèvres se sont rencontrées. Et voilà comment la faiblesse de l'homme voue à l'échec la pieuse entreprise du pasteur. Triste exemple de cet écartèlement que nous avons déjà évoqué plus haut du ministre de Dieu entre sa nature et sa vocation. Vous êtes là, saint de corps et d'esprit, ça va? À cette inadéquation intérieure au monde, à cette inaptitude à vivre, le type littéraire du pasteur ajoute, nous vous le disions au début, et c'est le second point de notre développement, ajoute deux faiblesses, de quelque poids. L'inintelligence d'abord, et ensuite la laideur. L'intelligence du pasteur est stigmatisée par Gabriel Marcel dans un homme de Dieu que nous avons déjà évoqué et dont vous me permettrez de résumer l'histoire. C'est la fameuse Edmé toujours, hein? Vous suivez, hein? Edmé le moine. Alors que son mari était pasteur de campagne, Edmé le moine s'est laissé entraider à le tromper avec un jeune propriétaire des environs, Michel Sandier. Vous résume là, hein? Quand je suis un peu gêné, je résume. Hein. Alors, de leur... Ça n'a rien à voir avec la conférence, mais ce que ce verset soit là, ça me touche beaucoup. Je suis voué aux fleurs du lys. Alors, vous suivez, hein? Alors, Edmé le moine, y a eu quelque affaire, bon, avec Michel Sandier. Et de leur relation est née une fille, Osmonde, qui,
a grandi au foyer des Lemoines, ignorant que Claude n'était pas son vrai père. 20 ans passent et nous sommes au début du livre. Et c'est triste. Michel Sandier, usé de débauche, n'ayant que peu de temps à vivre, vient à Paris. Il voudrait bien revoir, avant de mourir, l'objet et le fruit de ce coupable amour, celle qu'il a aimée et celle qui est sa fille. Il en fait demander à Claude, qui est toujours le pasteur, le mec, vous suivez, l'autorisation. Il demande l'autorisation. Claude pourrait refuser. Monsieur le pasteur, mesdames, messieurs, un homme intelligent aurait refusé. Moi-même, j'aurais refusé. Mais par bonté, par excès de conscience pastorale, parce qu'il ne se méfie pas des conséquences que cela peut avoir, sans se laisser guider par les supplications d'Edmé, c'est la nana, qui, elle, sent instinctivement le danger, Claude, le pasteur, consent, le malheureux. Mais ce n'est pas tout. Quand Edmé et Michel Sandier se retrouvent en présence, eh bien, il fait ce que font beaucoup de pasteurs, il faut l'avouer, et il a la réunionnite. Vous voyez, ça c'est un fléau. Ça frappe aussi les professeurs en théologie, etc. Bon. Ma faculté n'est pas modèle, n'est pas, on n'échappe pas à ce mal. Et alors il a la réunionite, il se rappelle brusquement qu'il doit assister à un comité chez l'un de ses collègues. Une fois de plus, le regard d'Edmé le supplie de rester. Mais non, il s'en va. Les laissant seuls ensemble, le malheureux, disais-je, il me faut ajouter le lamentable psychologue. Inintelligence encore, chez les pasteurs de Gide, tel monsieur Bavretel, que ce grand écrivain évoque dans « Si le grain ne meurt », le narrateur ne retient de lui que des phrases insignifiantes et stéréotypées comme « Amusez-vous bien les enfants, que Dieu vous ait en sa sainte garde », tel encore monsieur Couve, le pasteur Couve, catéchète de l'enfant Gide, je cite, le pasteur Couve qui me préparait était certes le plus digne homme du monde, mais Dieu que son cours était ennuyeux. Si le crâne meurt, c'est dedans. Bêtise du pasteur, enfin, dans un roman plus récent, et qui eut quelque retentissement, l'épervier de Maheu, de l'écrivain régionaliste Jean Carrière. Il y a plusieurs Carrières, hein, bon. Faut pas confondre avec mon cousin Jean-Claude Carrière, etc. Bon. Monsieur Barthélemy, ministre, je vous résume, hein. Monsieur Barthélemy,
ministre de Dieu, dans un coin, alors, perdu, hein. Marcillac en Languedoc, c'est la capitale, bien sûr, hein. Et alors, le gars, il est dans un coin, pasteur dans un village, dans un trou du trou, et dans un coin perdu dans un village aux rues, vous voyez, dans un lieu impossible, des Cévennes agonisantes. Et le pasteur Barthélemy semble programmé pour prodiguer des paroles adaptées aux circonstances. Arrivant dans une famille dont le père vient de mourir, incommodé par la chaleur, il use pour s'en ouvrir à l'assistance de cette imagerie convenue, riche en métaphores surprenantes et propres à la huguenoterie. Notez dans vos tablettes tout le vocabulaire, hein. Propre à la huguenoterie méridionale que nous autres protestants appelons ironiquement le patois de Canaan. Alors j'entre dans l'épervier de Maheu. Le pasteur avait fait son entrée. Mais comment diable s'appelle-t-il? Quelque chose comme Monsieur Barthélemy, ce qui est tout de même assez chic pour un pasteur. Le pasteur avait fait son entrée vers 1 heure de l'après-midi. Devant la porte, il avait refermé le parapluie sous lequel il s'était abrité du soleil pendant la montée. Au moment où il avait écarté le rideau pour les mouches, on avait entendu distinctement derrière lui le bruit de friture des insectes. Coste, vous voyez, les insectes qui crépitaient au soleil comme dans de l'huile bouillante. Il avait eu un geste d'excuse pour le parapluie. Et à mi-voix, à l'intention du docteur et de 2 ou 3 personnes qui n'étaient pas de la famille, en vérité, la vallée de Josaphat ne serait pas plus pénible. Quelle chaleur effroyable! Abordant la veuve, le brave pasteur Barthélemy use son intellect à agencer ses mots. C'est une terrible épreuve, madame, que Dieu vous envoie. On ne peut pas trouver plus banal. Encore faudra-t-il s'en satisfaire, car lorsque le pasteur s'avisera d'être profond, ce sera pour lâcher cette lourde et creuse sentence. Alors voilà, seule la souffrance est capable de donner à notre vie la signification que le bonheur lui-même serait incapable de lui donner. Au-delà du peu de sens de ces paroles, du mépris du bonheur, n'est-il pas à interpréter comme une marque de sottise? Bien des pages plus loin, lorsqu'un des personnages, le jeune Abel, voulant creuser une galerie, est tué par une explosion, revoici Monsieur Barthélemy. Procès-verbal signé, les gendarmes s'en allèrent au moment où le pasteur arrivait. Oh, celui-là! Vous avez fait votre devoir, messieurs. À moi de faire le mien, qui commence où se finit le vôtre. Ce sont là, convenez-en, des paroles que dicte un manque total d'inspiration. Voilà de ces phrases répétées 100 fois en pareille circonstance, tant qu'elles en deviennent dénuées de sens, donc inutiles, et qu'au lieu de pallier l'intelligence, elles en aggravent cruellement le manque. Alors là, inspirez profondément. C'est comme ça qu'on fait en psychologie. Inspiration profonde, ventre calme, détente absolue. Vous n'avez jamais vu, vous avez, si, eh si, il faut être de son temps. Inspiration profonde, ventre calme, détente absolue, voilà. Alors, j'aborde maintenant, évidemment, la laideur. Les pasteurs seraient laids. Certes, parce que je suis obligé chaque matin de me raser, de me regarder dans la glace, je me doutais bien un peu que le corps pastoral n'était pas exclusivement composé d'Adonis. Mais enfin, sommes-nous si laids que cela? Il paraît. Ah, nous dit-on, parlez-nous du noble visage d'un père abbé. C'est chic et choc, un père abbé, hein? Ou d'un prélat romain avec ses lignes ascétiques, son haut front lumineux, son regard si fin et ses lèvres minces. Ou encore, de la bonne figure naïve et réjouie d'un petit desservant de campagne. Mais un pasteur, fi, ces gens-là sont laids. Ils ne peuvent être que laids, parce que déplaisants, renfrognés et tristes. Deux exemples. Guy de Maupassant, puis André Gide encore nous les offre. C'est chez Maupassant, dans un récit daté de 1887, le marquis de Fumérolles, que l'on voit apparaître, du reste du point de vue historique, l'on voit apparaître, tu as raison de te déplacer, hein, ça va chauffer, l'on va apparaître pour la première fois le pasteur. Donc c'est historique là. Alors voici le thème de cette brève nouvelle. Le marquis, un vieux voltairien, va mourir. Sa famille décide une croisade afin d'obtenir in extremis sa conversion. Elle sera conduite par Monsieur l'abbé Poivron. Petit prêtre gras et propre, vaguement parfumé, un vrai vicaire de grande église dans un quartier noble et riche. Le mourant ne veut rien entendre. Et comme l'abbé Poivron et la famille tiennent dans une pièce à côté une sorte de conseil de guerre, on entend soudain des cris effrayants. Ça, c'est le presque mort qui crie. J'accourus, dit le neveu du marquis. En face de mon oncle. Mon oncle, c'est le mourant. Je fais le mourant, vous voyez. Il crie pâle, vert métallisé, là. En face de mon oncle, soulevé par la colère, presque debout et vociférant, deux hommes, l'un derrière l'autre, semblaient attendre qu'il fût mort de fureur.
à sa longue redingote ridicule, à ses longs souliers anglais, à son air d'instituteur sans place, à son col droit et à sa cravate blanche, à ses cheveux plats, à sa figure humble de faux prêtre d'une religion bâtarde, je reconnus aussitôt le premier pour un pasteur protestant. Le second était le concierge de la maison qui, appartenant au culte réformé, nous avait suivis, avait vu notre défaite et avait couru chercher son prêtre à lui dans l'espoir d'un meilleur sort. Mon oncle, c'est le mourant. Gris métallisé, mon oncle, c'est le mourant. Mon oncle semblait fou de rage. Si la vue du prêtre catholique, du prêtre de ses ancêtres, avait irrité le marquis de Fumérolles, devenu libre penseur, l'aspect du ministre, de son portier, le mettait tout à fait hors de lui. Je saisis par les bras les deux hommes et je les jetai dehors si brusquement, etc. Notez ce détail savoureux que Maupassant, qui fut des soirées fameuses de Médan, se piquait en bon romancier naturaliste de ne connaître que la réalité et de ne rien dire qu'elle. Vous voyez, le cénacle de Médan, c'était un cénacle précisément d'écrivains réalistes et naturalistes qui se réunissaient à Médan dans les Yvelines, au domicile précisément de Zola. Alors, nous voudrions ici, pour voir, ouvrir une parenthèse. Il parut, et notre animation se figea net. Il faut en prendre notre parti, mes chers confrères, nous autres, pasteurs, sommes laids. Et vous entendez bien que cette laideur qui est la nôtre, nous en sommes en quelque mesure, quelque part, responsables. Ou sinon, nous, personnellement, au moins la profession à laquelle nous nous faisons honneur d'appartenir. Cette laideur n'est là que comme le revêtement visible d'une laideur plus profonde. Car on le sait bien, n'est-ce pas? L'âme finit toujours par sculpter le visage. Si notre visage, alors là, attention, ce sont les romanciers qui par ma bouche pensent tout haut, si notre visage était éclairé par la flamme de l'intelligence, si on n'y lisait pas comme on a un livre ouvert notre attachement pour les biens de ce monde ou notre asservissement à la chair, nous ne serions pas au fond tellement laids. Mais voyons, des personnages aussi tristes que nous, inévitablement, ce sont de tristes personnages. Eh bien, c'est cette plaque négative où tout ce qui devrait être lumineux est remplacé par des masses et par des traits obscurs que les romanciers vont présenter au public comme offrant un portrait fidèle du pasteur. Si les écrits de Maupassant et Gide ne vous ont point donné à penser, et si ma présence parmi vous n'a point achevé de vous convaincre, votre sentiment ne résistera pas à la description que Jean Carrière, dans le livre déjà cité, fait du pasteur Barthélemy. Si le pasteur Bavretel était répugnant par son aspect négligé, le pasteur Barthélemy l'est par l'excès du soin qu'il porte à sa personne. Autre grief, mes amis, rassurez-vous, c'est la pédagogie générale, hein, ça va devenir de plus en plus bref et puis ça s'achève, bien sûr, hein, tout a une fin, tout a une fin ici-bas. Hein. Alors, autre grief, disions-nous, et voici l'objet de notre troisième partie, à la charge des pasteurs, ils ne sont pas de tailleux à se mesurer au curé. La réputation du prêtre est faite. Sa finesse, sa pénétration, tous ses dons d'intuition psychologique développés par la longue habitude du confessionnal sont admis, reconnus, admirés des protestants eux-mêmes. Entre ces deux types littéraires, le prêtre et le pasteur, la différence éclatera si vous les confrontez dans un même récit. L'exemple le plus probant de cet abîme entre le prêtre et le pasteur nous est apparu dans le lac salé de Pierre Benoît. Pauvre révérend Gouinette, dirions-nous, si Pierre Benoît n'avait accumulé sur sa tête tout ce qu'il faut pour nous le rendre odieux. Vous pensez bien que, mis aux prises avec le père d'Exilès, un jésuite et français de surcroît, toute sa science ne pèsera pas lourd. Pierre Benoît, il faut bien être impartial, lui permettra bien, à un moment donné, de coller le père jésuite. Seulement, c'est du luxe. C'est comme lorsqu'un champion de tennis joue avec un débutant, ça ne lui coûte rien de manquer une balle. Mais le reste du temps, Gouinette s'embrouille, patauge, dit ce qu'il ne faut pas dire, et vous pensez si l'autre, le roué, s'en donne à cœur joie. Il est tellement intelligent que c'est sa malice, je ne sais même pas si Pierre Benoît s'en est rendu compte, c'est sa malice qui déchaîne le drame. Un drame qu'elle n'est plus capable ensuite d'arranger. De cette différence de poids entre le prêtre et le pasteur, peut-être en avez-vous déjà relevé un exemple, malin comme vous êtes, dans la citation que nous avons faite de Guy de Maupassant, « Si la vue du prêtre catholique, du prêtre de ses ancêtres, avait irrité le marquis de Fumerolles, devenu libre penseur, l'aspect du ministre de son portier le mettait tout à fait hors de lui. » Ainsi, le comte de Maupassant, tout à fait irreligieux, et vouant aux mêmes gémonies le prêtre et le pasteur, réserve-t-il inconsciemment, peut-être, le premier, et à la société des nobles, et l'autre à celle des concierges. Le pasteur du roman français est laid. Et il est bête. Pour nous le rendre tout à fait odieux, il ne manquait plus qu'à le faire riche ou tout au moins désire de le paraître. Je dis en toile de fond parce que je suis historien. Par ailleurs, il y a le fait que l'argent aussi est considéré dans le protestantisme du point de vue plus favorable, vous voyez, qu'au sein du catholicisme romain, qui a toujours marqué une nette réticence. Vous connaissez les travaux d'Alain Peyrefitte. Certains protestants n'ont pas hésité à voir le profit comme le test même temporel. Vous voyez, le profit, le test temporel de la grâce. Ceci explique d'une certaine manière la réussite du capitalisme anglo-saxon. Alors, André Chanson, dans Les Hommes de la Route, nous dépeint-il le pasteur Andrault, tête grise et frisée par la quarantaine, avec un soin trop minutieux, à petites boucles droites et serrées, assez nobles d'allure et de port, mais non sans affaiterie, toujours vêtu de gris sombre à reflets d'argent, avec élégance et sévérité, il n'était jamais à son aise chez les gens du peuple. Hanté par le goût du monde et des relations, il lui fallait pouvoir se présenter chez les gens simples avec une hauteur bienveillante, une supériorité débonnaire, qui rendait seul possible les ferveurs excessives et les anéantissements presque complets de la volonté dans le désir de croire. Mais retrouvons des personnages qui nous sont déjà familiers. Le pasteur Naudier a la chance de se voir aimé par une jeune fille riche. Un de ses amis, personnage de roman, trouve sur son chemin une dot énorme. Une jeune fille orpheline comme Mademoiselle Desfosses qui avait juré de n'épouser qu'un pasteur. Car il y en a qui ont cette tocade, à peine mariée, c'est telle, nous dit Édouard Rode, à peine mariée, c'est elle qui porte le rabat. Elle ne montait pas en chair, le consistoire aurait protesté. Mais, c'est la femme du pasteur. Elle présidait les comités, elle fondait des œuvres, elle écrivait des brochures de propagande et de dogmatique. Car la théologie, je ne sais vraiment pas pourquoi, on en exclut les femmes. Ces exercices conviennent merveilleusement à leur esprit de chicane. Que faisait le mari pendant ce temps? Il administrait les biens de madame. Et très bien, je vous en réponds. Il avait médité la parabole des talents. Il faisait fructifier les siens. Donc, Édouard Rode, le ménage du pasteur Naudier. C'est également, figurez-vous, ce que fait le pasteur Petermann de Vieux-Châtel, évidemment en Suisse, dans le ménage duquel nous transporte Jules Lemaître.
ce n'est pas au moyen d'un roman, mais d'une comédie. L'aîné quitta un certain temps l'affiche du gymnase. Monsieur Petermann, vous suivez Petermann? Alors, comment vous dire? Oui, c'est une agence, il est lui-même une agence matrimoniale portative, voyez. Bon, je vous dis ça en métalangage domique, c'est mon nom, hein. Ce sont les mots qui correspondent à mon idiosyncrasie, hein. Eh bien, le pasteur Petermann a 6 filles. 6. L'ours aussi. Cependant, il n'est pas dépourvu d'un certain capital. L'essentiel est de le bien gérer. Il va donc s'adresser à l'un de ses voisins de campagne, Monsieur Durset. Et il lui demande ce qu'il pense de valeurs argentifères. Durset: mais monsieur le pasteur, la spéculation, c'est le jeu. Et le jeu étant la recherche du gain sans travail, n'est-il pas sur l'extrême limite des actions permises à un chrétien? Petermann: Sans doute. Mais vous oubliez, mon cher voisin, qu'il y a une hiérarchie des devoirs. J'ai celui d'établir mes filles, qui entraîne hélas celui de les doter, et corollairement d'arrondir un peu leur modeste dot. Si je puis, ce devoir certain prime assurément le devoir plus douteux de l'abstention évangélique à l'endroit des opérations financières. Si j'ose tenter la fortune, ce n'est point pour moi. C'est pour mes chers enfants. Cette démarche qui vous inquiète n'est donc à mes yeux qu'une façon détournée de solliciter pour elles, largesses de la Providence, et pour ainsi parler de remettre l'avenir de ces chères petites aux mains de Dieu. Le pasteur Gouinette, s'il manquait d'arguments dans ses débats avec le jésuite français, ne parle que de parafermaux, d'inventaires, de hausses, de baisses, à la stupéfaction d'Annabelle Lee, qui, devenue sa fiancée, lui apporte en un même élan son cœur et sa fortune. S'agit-il du revenu des terres? Que vous êtes savant, fit la jeune femme. J'ai eu l'occasion d'étudier le régime foncier d'Irlande, dit-il négligemment, à propos d'un travail que je préparais sur les ressources de l'église anglicane dans cette île. S'agit-il du cours des valeurs? Comme les regards d'Annabelle disaient sa surprise, il eut un sourire. Ma science vous étonne? Et comptez-vous pour rien les longues journées de maladie où vous m'avez laissé seul avec les 2 Reset News? Grâce soit rendue au Seigneur, puisque la lecture des cours de la bourse dans ce journal me sert aujourd'hui à vous venir en aide. Dieu, Anna, sait où il nous mène. Sa parole est écrite partout. Qui sait la lire? Pierre Benoît le Lac Salé. Chez Carrière encore, puisque c'est le roman français des plus récents qui, à notre connaissance, met en scène aussi longuement un personnage de pasteur, chez Carrière dont M. Barthélemy possédait, en Suisse, quelques parents d'une branche immigrée enrichie par le négoce du chocolat et des livres pieux dans une alternative décente. Vous voyez, la volonté de persiflage d'une telle évocation ne vous a pas échappé. Peut-être Monsieur le pasteur, mesdames, messieurs, mes amis, peut-être loin du ton objectif que requiert un travail scientifique, avez-vous pu trouver à notre propos un soupçon d'accent polémique? C'est que ce qui ne devait être qu'au départ qu'un exercice intellectuel, une entreprise d'érudition, est devenu, par le fait de notre formation, de notre vie quotidienne, bref, de notre appartenance assumée et revendiquée au corps qui faisait l'objet de cette étude, est devenu une sorte d'œuvre de défense et de réhabilitation. À Dieu ne plaise que, vous jugeant édifié par les exemples littéraires que nous vous avons présentés, vous ne sortiez d'ici convaincu que les pasteurs sont tels qu'on vous les a montrés. Sans doute trouverait-on de ci, de là, en particulier chez Chanson, dans d'autres ouvrages que celui cité, des exemples de pasteurs sympathiques, encore que très souvent ce sont plutôt des laïcs, mais leur rareté les rend non représentatifs. Aussi, voudrez-vous bien nous permettre encore, comme votre indulgence ce soir aura été sollicitée, mais un pasteur n'en a-t-il pas besoin aussi, voudriez-vous bien nous permettre, disions-nous, de réfuter carrément, en concluant, ces accusations dont le type littéraire du pasteur nous accable. Cette sorte de funambulisme entre les exigences de l'apostolat et les écueils de la vie séculière. C'est la gloire des pasteurs, dans leur immense majorité, de s'y livrer non seulement sans chute, mais avec sérénité, sûrs qu'ils sont de recueillir au bout de leur chemin une récompense sans mesure. Bêtes, les pasteurs, notre corps, comme celui des plombiers ou des avocats, des jardiniers ou des ministres, compte d'inégales intelligences, mais du moins une même et unique volonté de servir nos semblables et Dieu. Et quelques noms, comme le pasteur Schweitzer, comme des pasteurs que vous avez pu rencontrer, comme le grand pasteur Adolphe Monod, Pierre Marcel, je ne sais, tous ces noms tiennent lieu d'arguments et suffisent à eux seuls à réfuter cette accusation de bêtise généralisée. Les pasteurs. Nous vous en laissons juge, et cette vanité est bien éloignée de nos préoccupations. Cupides, les pasteurs, ils ont pourtant choisi délibérément la misère, puisqu'elle allait de pair avec le service de Dieu. Les pasteurs, épousant de riches héritières, eux, c'est comme les bergers, épousant des princesses, c'est, à quelques exceptions près, que l'amour justifie, c'est tout juste bon pour les comptes. Et s'il fallait un exemple de désintéressement, le docteur Schweitzer nous le fournirait, qui fut d'abord et demeura jusqu'à la fin pasteur. Si l'on s'interroge à présent sur les raisons qui ont pu pousser les écrivains à forger, puis à entretenir un tel type littéraire, on est d'abord surpris de constater que nos exemples les plus virulents émanent d'écrivains protestants. Que le jour défavorable sous lequel apparaît le pasteur fut dû à la plume d'un catholique romain engagé ou d'un athée, on l'expliquerait aisément. Reste tout de même les gides, les chansons, les carrières. À notre tour, peut-être, de régler quelques comptes. On sait quel inconfort le mode de vie de Gide trouva dans la rigueur morale du protestantisme dont l'homme était issu. Quel combat il dut se livrer à lui-même, quels tourments furent les siens, nous ne voulons ni l'ignorer, ni le sous-estimer. Il n'en est pas moins évident qu'il mit son talent au service de cette rancœur qu'il gardait à une éducation qui condamnait ses choix. Roger Peyrefitte se venge des bons pères en écrivant les amitiés particulières. Gide se venge à sa façon des pasteurs de son adolescence. C'est chez André Chanson, peut-être, que se trouve le plus grand souci d'impartialité. Cet auteur a su peindre, dans La Superbe, dans La Tour de Constance, dans d'autres écrits, des serviteurs de Dieu à la mesure de Monseigneur Myriel, des Misérables, de Victor Hugo. Certes, nous l'avons dit, ces personnages n'étaient guère en rapport avec la réputation conventionnelle du pasteur dans le roman. Aussi, leur avons-nous préféré le portrait du pasteur Andro. Humilité de Chanson qui, huguenot, fervent et pratiquant, ne veut pas voir assimiler pastorat et sainteté, et s'astreint dans une de ses œuvres à peindre un pasteur sous les méchants traits que nous avons vus. Quant à Monsieur Jean Carrière, ses mauvaises dispositions à l'égard du passeur s'explique par une révolte et un athéisme que l'on sent affleurer ou que l'on voit parfois éclater tout au long du roman. Nous vous épargnerons des citations où le mot de Cambronne est allègrement mêlé à des paroles d'évangile. Ce qui ressort au fond de Carrière, à travers les grandes qualités de son roman, ce sont les relents de cette idéologie gauchisante qui fut tant en vogue parmi les intellectuels des années 1970 et dont ils sont bien revenus. Encore que les derniers. La haine du pasteur chez Carrière, c'est la haine de l'autorité ecclésiastique que son éducation lui a permis de connaître mieux que tout autre. L'auteur eût-il été catholique romain, Monsieur Barthélemy se fût appelé le père Barthélemy. Le pasteur, mesdames, messieurs, Mes très chers amis, le pasteur cultive l'espoir comme l'humilité. S'il découvre avec douleur le masque grimaçant dont les romanciers l'affublent, figure de la réalité pour des milliers de lecteurs ignorants de sa véritable nature, il ne voit là qu'un atome de sa croix et dit avec résignation « Que ta volonté soit faite ». Mais aussi réconforté par les phénomènes historiques et sociaux qui expliquent cette hostilité, certains de trouver à son tour dans la littérature une place digne de son mérite, le pasteur attend au seuil de ce 21e siècle dont Malraux a dit qu'il serait spiritualiste ou ne serait pas, le pasteur attend les pieux auteurs, les œuvres magistrales qui lui donneront aux yeux du public sa juste dimension. J'ai dit,